morreu na contramão, atrapalhando o tráfego.
Amor daquela vez,
como se fosse o último,
beijou sua mulher,
como se fosse a única.
Cada filho ser,
como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido.
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas.
Tijolo com tijolo num desenho lógico.
Seus olhos embotados de cimento e tráfego.
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo.
Na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina.
Beijou sua mulher como se fosse lógico.
Perdeu no patamar quatro paredes plácidas.
Certo pra descansar como se fosse um pássaro.
Como se fosse um príncipe.
E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir, a certidão pra nascer e a concessão pra sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir. Pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Vai nos redimir.
baba no, na baba bota, na baba kelban, ibangu baba ne, wawa yakme, wawa popsme, wawa papme, umbisa we, weni mama, melelengo mamo, mba mamu bochi, baba wale na mwana gebu meba.
Eh ben au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste et Urbi comme Orbi, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot. C'est ouvert du mardi au samedi à partir de 13h. On a changé sur Onde de Choc l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, le dernier comptoir où l'on cause. On a changé de générique. Eh ben, c'est Tita Nzebi, c'est merveilleux, c'est dansant, c'est toute l'Afrique. Mais on n'a pas changé de technicienne. Elle est là, c'est Monique. Merci Monique d'être encore une fois sur Radio Libertaire pour ce numéro d'empreinte. Le combien ?
42.
Tu sais quand même ? D'accord. Alors, des artistes singuliers, des écrivains oubliés, des inédits d'auteurs contemporains, de la littérature populaire, des curiosités de bibliophilie, des sites d'art brut, des vies remarquables, des fous littéraires, c'est ce que propose la revue Empreinte. Hein, donc voilà. Et c'est vrai, avec ce nouveau numéro, c'est vrai. On va faire les présentations quand même. Hein, faut quand même. Comme je suis très galant, je vais commencer par Monsieur Pierre Triboulet. Bonjour. Voilà.
Bonjour.
Bonjour Monsieur Triboulet. Claude. Bonjour Claude Brabant.
Bonjour, bonjour.
Hein, c'est là, là. Et puis pour la première fois à l'écran, hein, je dirais au micro, le nôtre d'ailleurs, Eve Morcrette, c'est ça pour son Memento Mori.
Hein? Oui, bonjour Jean.
Ah, c'est gentil de me dire bonjour. Alors, avant qu'on commence dans le vif du sujet, et après, on va commencer par vous allez voir, bien sûr. Je vous rappelle que le lundi 9, on va voir où en est le surréalisme. Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il est bégayant? Est-ce qu'il est timoré comme d'aucuns le prétendent? Ou alors, il est là, et bien là. Et donc, on va recevoir le In Toto. C'est une revue qui a quasiment fait la suite au Désir Libertaire, dont on parlera ici. Il y aura un hommage à Jimmy Gladiator, que tu as connu, et moi aussi, mon ami, comme ça. Et on recevra Abdelkader El-Jadabi avec Mona Huerta et avec Marc Cobert. Hein?
Formidable.
Voilà, avec Monique à la technique, bien sûr. Donc, toujours pareil, 14h30, 16h. On parlera du surréalisme et on ouvrira aussi un dossier Palpon. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est.
Palpon.
Oui, tu connais.
Ah oui,
c'est
Palpon,
pour ça.
Je l'ai exposé.
Et bien voilà la première surprise de la journée. Alors, poète roumain ?
Oui.
Poète roumain.
Alors, poète roumain, un des fondateurs du surréalisme roumain avec Gerasim Luca. Voilà. Et Paul Paon, il vivait en Israël. Il était chirurgien de son métier. Il avait donc quitté la Roumanie en même temps que Luca, je crois, à peu près. Et lui, il a été en Israël, il est resté, alors que Luca est venu en France. Et il a dessiné Paul Paon. Il a écrit aussi, il a écrit un livre qui s'appelle La Rose Parallèle, qui est un livre poétique et visionnaire. Ouais. Et il a beaucoup dessiné. Donc il a exposé à l'usine.
Et tu l'as exposé ?
Oui, j'ai fait 5, je crois. 5 expositions avec lui, à partir des années 80 jusqu'à sa mort, et même une après.
Voilà. C'est toute la bande des Roumains, hein, c'est-à-dire Hérold, Gerasim Luca, Paul Paon.
C'est plus que la bande des Roumains, c'est les 4 fondateurs du surréalisme roumain. C'était Luca. C'était Paul Paon. C'était 2 autres dont je n'ai plus le nom.
Moi
là.
Non plus, je vais te retrouver.
Voilà. Excuse-moi, mais ils n'étaient que 4. Hein.
Ils ont fui la Roumanie.
Et ils ont fui la Roumanie.
Hein, pour des raisons politiques.
Voilà, ils étaient juifs. Hein.
Oui, bien sûr, pour des raisons politiques.
Ils étaient juifs, ils n'ont pas fui, ils ont été rachetés par Israël.
Voilà.
Voilà.
Alors, Eve Morcrette, comme c'est la première fois. Ah, voilà, voilà. Je raconte une petite histoire déjà. Ça, voilà. On se connaît depuis longtemps. On s'est vu à l'usine plusieurs fois, je suppose.
Absolument.
Alors, il s'est trouvé que c'est pas la première fois que ces photos viennent dans Empreinte. Hein. Et moi, j'avais trouvé ça très beau. On va en parler. On va descendre là-dedans. Et effectivement, je ne savais plus dans quel numéro. Alors, ça ne sert à rien de téléphoner à Claude Brabant pour lui demander où ça se situe dans un numéro, elle ne le sait pas. Alors, il faut prendre... Généralement, il faut prendre tous les numéros, là. Mais, comme j'avais beaucoup aimé ce que vous faisiez, j'avais mis ça sur le dessus et je les ai trouvés sans aucun problème.
Ah, formidable.
C'est bien, hein. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, elle dit une chose intéressante hors antenne, que la revue Empreinte, vous rappelez le Minotaure.
Absolument.
D'accord. Oui. C'est quoi le Minotaure ?
Minotaure, c'est une revue qui était éditée dans les années 30, plus que 30 d'ailleurs, 39 je crois.
Ma chère, j'étais pas née quand même. Hein.
Oui. Ouais. Et qui, à l'époque, montrait tous les artistes, écrivains, auteurs. Donc il y avait photographes, il y avait Brassai, il y avait Salvador Dali, il y avait André Breton, il y avait. Plein de gens, et c'était, ça grouillait quoi, c'était extraordinaire entre les mots et ce qu'on avait. Et ce qui est assez incroyable, c'est que à part les couvertures qui étaient en couleur, tout le restant était en noir et blanc. Et donc on voyait des œuvres de Cézanne en noir et blanc, des tas d'œuvres, et malgré tout, il y a la magie qui opérait, puisqu'on arrivait à moi, enfin, en tout cas, quand je la regardais hier, je regardais et je voyais les couleurs et je voyais tout ce monde avec une intensité incroyable et une émotion.
Et vous avez plusieurs numéros ? C'est assez rare quand même, le Minotaure, non ?
Oui, c'est rare, oui.
Ouais. Voilà. Donc, dans...
Et Claude me fait penser... Pardon, excusez-moi.
Vous faites penser à qui, Claude ?
Non, dans sa démarche.
Ah bon ?
c'est pas vrai, tout ça ?
Comment ça ?
Ben non, parce que moi, je fais pas beaucoup de contemporains, d'inédits contemporains. Ben, comme tu décris le Minotaure, ça a l'air d'être un groupe d'artistes ou les artistes de l'époque, mais moi, ce n'est pas du tout ce que je fais.
Il y avait aussi le passé. Hein. Il y avait le passé. Hein.
D'accord.
Donc, il n'y a pas que les artistes de l'époque. Il y a vraiment, par exemple, il y a Cranach, il n'était pas contemporain.
Ah, d'accord.
Il y a beaucoup d'artistes qui n'étaient pas contemporains.
Cranach n'est pas contemporain.
Ah, ben non, non.
D'accord. Donc, dans ce numéro, c'est vos photos à vous.
Oui.
C'est vraiment, il y a une marque, et c'est vous. C'est en même temps, c'est beau. C'est très, non, on peut en parler, rassurez-vous. C'est très esthétique, et puis en même temps, c'est macabre, toujours. C'est quoi, c'est des photos ou quoi ?
Oui, ce sont des photographies, mais c'est vrai que plus j'avance, plus je vais vers une expression différente, la gravure, la peinture, le dessin. Mais ce sont des photographies avec l'idée de faire comme un dessin, comme une peinture un peu. C'est dans le même état d'esprit. Mais le beau, le laid, comment pouvoir... j'ai fait une thématique là-dessus, la beauté de la laideur. Parce que...
Il y a le mot beauté dedans, je ferai, oui.
Ben oui, mais dedans. Parce que pour moi, le beau et le laid, c'est pas visuel, c'est quelque chose de plus immatériel.
Oui, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, quand je vous regarde, et en même temps, c'est truqué. Je vais vous dire pourquoi c'est truqué. Car dans une des revues, dans Empreinte numéro 34, là, vous êtes proche d'Anse Bellemare.
Oui, ah, ça m'a énormément touché.
Alors, on va y aller. Et c'est très drôle parce que maintenant, je vous associe à Anse Bellemare. J'associe la démarche esthétique, car Anse Bellemare est toujours très, esthétique, et en même temps, il y a toujours ce côté de funèbre, macabre. Mmh. Alors, et c'est d'autant plus truqué, et je vais te surprendre une deuxième fois, Claude Brabant, j'y tiens absolument, c'est d'autant plus truqué que la semaine dernière, on a fait une émission, il y avait Jacques Coda qui était là. Et pour une fois qu'il a un peu de lucidité, je vais quand même dire ce qu'il a fait. Il est directeur d'une collection chez Douros et ils ont fait un Anse Bellemare avec quelqu'un que tu connais. C'est le kinésithérapeute. Mmh. Tu veux en parler un petit peu, puisque tu avais publié ça aussi.
Oui, alors moi,
on va revenir après. Hein.
Quand j'étais au marché de la poésie, quelqu'un est venu à mon stand qui m'a dit voilà, je suis le kinésithérapeute de Anse Bellemare. J'ai des dessins inédits de lui, est-ce que ça vous intéresse ? Alors moi j'ai dit bien sûr, mais il avait fait tout le marché et demandé à plein de petits éditeurs qui n'avaient pas l'air concernés. Voilà, et donc les dessins inédits qu'il avait, ben, je les ai publiés dans Empreinte. Et on est devenus amis. Hein. Donc c'est Joseph
Joseph Nosazersky.
Voilà, moi je peux pas me souvenir.
Oui, aussi, ouais. C'est un nom très, très difficile à dire. Alors, il y a eu ce livre qui vient de paraître avec une présentation de Roger Mathieu. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
Bah, je crois que c'est lui que je publie.
Deuxième surprise. On n'a pas fini. Voilà. Mais pour venir sur le thème, puisqu'on est, on est là, vous avez travaillé un petit peu. Alors, je veux bien enlever le mot beau, mais je veux bien conserver le mot esthétique. Je veux dire qu'il y a une volonté chez Bellemare d'esthétisme. Mmh. Non, Claude? Non, t'es pas là. Vas-y.
Moi, je crois que l'esthétisme, c'est la récompense. C'est-à-dire, je crois que l'esthétisme, c'est pas la motivation, c'est la récompense du travail bien fait. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Voilà.
On ne sera pas d'accord, mais...
La beauté vient de ce que la chose est authentique et réussie, et voilà, et a de la qualité. Et l'esthétisme, c'est la récompense pour moi. Si l'esthétisme est au début de la démarche, c'est une catastrophe.
Ah, mais je n'ai pas dit... ni chez Bellemare, j'ai dit qu'il y avait une volonté d'esthétisme. J'ai dit que le travail livré, puisque moi je le vois même avec la mort, je dis oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien.
Et je dis pas, oui, qu'est-ce que, alors, bien, je dis, c'est pas le résultat,
mais,
qui est
bien. Oui, mais bien sûr, mais je dis pas qu'est-ce que ça me répugne.
Ah non, pas du tout.
Non, Ève.
Oui, mais alors là, je vais vous poser une question qui...
Vous êtes là pour ça, je vous rappelle.
qui, justement, et je pense une question intéressante et assez fondamentale, en ce sens que, pour moi, l'esthétisme n'est pas quelque chose d'intéressant en soi. Et je ne sais pas ce que je recherche, en tout cas. Moi, je recherche plus... déjà, il n'y a pas de... Je ne sais pas si vous avez employé un mot dont je ne me souviens plus, trucage.
Moi non plus, d'ailleurs. Le mot, c'est le trucage, par rapport, moi, à ma réception, à cause de la proximité d'Hans Bellemare. C'est tout. Ouais. C'est comme si vous avez une scène de théâtre. D'accord. Une scène de théâtre, vous avez deux objets, l'un à côté de l'autre, c'est tout. Oui. Voilà.
Alors, pour... excusez-moi. L'esthétisme, c'est pas ma préoccupation du tout. Et moi, je suis pas dans cette idée-là, aussi bien quand je travaille que quand après je regarde le travail que j'ai effectué. C'est un mot qui me...
C'est pas ton mobile.
Ouais, ça me parle pas, quoi.
Pas le mobile du crime.
Non.
On va s'écouter un petit peu de musique, si Monsieur Nicolas veut bien laisser Mademoiselle Monique en cabine, ce serait très bien. Merci. Et puis on va revenir à tout ça. Hein, voilà, on est toujours avec la revue Empreinte 42. Avec nous, c'était Jeff Sicard, hein, voilà. On sait qu'il enregistre à Las Vegas, il met un bout de temps pour... T'as pas de nouvelles de son prochain disque ou pas?
Non, pas
encore. Non, c'est toujours... C'est très très bien. Oui, avant que tu ajoutes, parce qu'on y pense... Alors, c'est édition collection Bleu Turquin, dirigée par Jacques Coda, Hans Bellmer, Joseph Nozazewski, c'est l'ancien kiné, et c'est magnifique, c'est un livre qui est magnifique, hein, avec des textes de Roger Mathieu. Bon, tu voulais rajouter, tu as le droit. Hein.
Je voulais rajouter sur le travail d'Eb que ce qui est très très remarquable aussi, c'est que techniquement, donc c'est des superpositions, hein, c'est des photos superposées, mais techniquement c'est remarquable car la superposition, elle l'a fait à la prise de vue. Elle ne l'a fait pas en laboratoire avec des négatifs, mais elle l'a fait à la prise de vue quand elle prend la photo. C'est-à-dire que quand elle prend la photo, elle est déjà capable d'estimer que ça va donner quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est remarquable, ça, comme maîtrise.
Voilà. Mademoiselle.
En fait, c'est vrai, c'est un long cheminement, parce que je pense... alors déjà, je voulais dire quelque chose par rapport à la mort et l'esthétisation. En fait, mon nom, c'est Morcrette, donc c'est un nom qui inclut la mort. Donc la mort est très présente chez moi, quelque part.
Elle est présente chez tout le monde. Hein.
Oui, mais peut-être encore plus fort. Et donc... ce que dit Claude, c'est vrai que c'est quelque chose qui, depuis le début que je fais de la photographie, en fait, je trouve que quand l'image est fixée, s'il n'y a pas une issue de sortie, s'il n'y a pas une échappatoire, ça me gêne un peu quelque part. Donc, je me suis dit comment je pouvais le faire. Et c'était aussi une manière d'inscrire le temps dans quelque chose de fixe. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait quelque chose qui apparaît et disparaît, c'est un peu des strates comme ça, qui sont dans cette profondeur de champ et qui, tout d'un coup, je joue avec. Et ça, c'est passionnant à faire. Et j'en suis tellement... il y a une telle pratique que à chaque fois je sais ce que je vais faire avant de quand je suis au moment où je le fais quoi.
Voilà.
C'est dit. Oui, j'ai tout dit.
D'accord. Alors, on close sur le sujet, mais par exemple dans certaines Pietà. Alors qu'on est sur Radio Liberté, la radio de 10 mètres, pas certaines pièces très cruelles, par exemple, on peut être attiré par quelque chose au niveau du jouissif, au niveau du beau. Alors, je reviens sur le terme. Oui. Au niveau du beau, on peut être attiré, soit par une madone ou par quelque chose, la sexualiser à ce moment-là. Moi, voilà.
Oui. Voilà.
On pourra en parler des heures et des heures, on n'a pas le temps.
Oui.
Hein.
Parce que normalement, la Vierge ne doit pas toucher le corps du Christ, donc il n'y a pas de...
Elle a tort.
Mais il y a toujours un tissu entre la peau du Christ et...
Elle a tort, je vous le dis. Bon, avant qu'on fasse travailler M. Triboulet, Claude Brabant, je vais encore t'étonner, voilà. Alors là, c'est l'ami Peter Arthur... Cassens, je sais pas, voilà. Ouais. Alors, il se trouve que la semaine dernière, alors je connaissais absolument pas ton sommaire ni quoi que ce soit, j'ai un enregistrement qui a été fait à Cordes-sur-Ciel par Paul Sanda, sur Christophe Brunel et Peter Arthur Cassens. Et donc, ça dure pendant trois quarts d'heure, et à la fin, ils nous font en chœur, a cappella, une interprétation de l'Orne Sonate de Kurt Schwitter, comme ça, a cappella. Et c'est absolument splendide. Mm-hmm. Bon, l'histoire est tragique. Tu veux la raconter? Moi, je commence. Ils sont crieurs.
Il est crieur.
Son copain aussi est crieur.
Non, Brunel n'est pas crieur.
D'accord,
non,
il est crieur. Vas-y.
Donc, il est crieur. Il est crieur à Tournai, parce qu'en Belgique, ils ont encore des crieurs. Et il est aussi un peu bibliothécaire de la bibliothèque de Tournai. Et quand il voit que la bibliothèque jette les livres, quand ils en ont assez ou quand ils en ont trop, il les jette, il les pilonne, il les met à la poubelle. Il s'est dit, je vais récupérer tout ça. Voilà, parce que ça lui faisait mal au cœur. Et donc il a récupéré les livres que la bibliothèque jetait, il les a mis chez lui, dans sa maison. Il a créé une bibliothèque qu'il a appelée la bibliothèque Tout Sauf Idéal. Et il a rempli sa maison de livres. Et puis il y a un moment où sa maison, elle a été trop pleine. Et il a acheté la maison à côté. Et il l'a rempli aussi de livres. Et un jour, il y a un incendie qui s'est déclaré. Alors on ne pouvait plus circuler chez lui, il ne pouvait plus recevoir de gens parce qu'il y avait des livres absolument partout. Il y a un incendie qui s'est déclaré et tous les livres ont brûlé et lui avec.
Tu l'as connu toi ?
Non, d'accord. Moi je ne l'ai pas connu.
Voilà. Et donc il avait 58 ans.
Voilà.
Voilà. Et petite parenthèse, au niveau de la voix de ce qu'il était, ça fait penser à ton appellation de l'art singulier.
Oui.
Tu vois, c'est de l'art singulier.
C'est de l'art singulier.
De l'art singulier, là. Donc, la semaine prochaine, le 9, on fait le désir libertaire in toto, en direct. Et la semaine d'après, je repasserai l'émission entièrement avec les voix de Christophe Brunel et...
Très bien.
Voilà, hein. Oui.
Et je sais que tous les deux, parce qu'ils étaient très amis, hein, tous les deux, ils ont fait un poème qu'ils appelaient le poème sans fin. Et donc, c'était un poème qui continuait, ils ne l'ont pas terminé. Ça fait des milliers de pages. Hein,
on va faire travailler M. Triboulet un petit peu. Parce qu'il est là, il piaffe d'entrée en scène. Si vous piaffez, monsieur Triboulet.
Je trouve que vous avez une drôle de figure.
Vous trouvez aussi.
Je voulais vous le dire.
D'accord, donc,
vous avez une figure singulière.
C'est vraiment magnifique. Voilà. Magnifique.
Non, mais.
Allez-y, mais je vous en prie, monsieur Triboulet.
Il fallait que je vous le dise.
Ah, mais ça me fait un plaisir. Voilà, je suis en état d'érection, si vous saviez.
Mais c'est monsieur Triboulet. Ça n'est pas un compliment. Voilà. C'est une constatation.
Venant de vous, n'importe quoi me plaît, monsieur Triboulet. Donc, Lucien Victor Meunier. Les clameurs du pavé. Il est né en 1857. Lucien Victor Meunier devient journaliste à l'âge de 24 ans. Il collabore à plusieurs journaux, comme Le Petit Populaire ou La Bataille politique et sociale de l'Issagaré. C'est en 1883 qu'il entre au journal Le Cri du Peuple, dirigé par son fondateur Jules Vallès. Meunier est un militant socialiste radical. Lors de l'affaire Dreyfus, il est aux côtés des Dreyfusards. Il devient un membre actif de la Ligue des droits de l'homme, dont il dirige la section bordelaise, mais il est aussi écrivain. Il publie des romans, des nouvelles et des pièces de théâtre. Il meurt à Paris en 1930. Les clameurs du pavé, ouvrage publié en 1884 avec une préface de Jules Vallès, est un recueil de chroniques publié 3 ans auparavant dans le journal La Bataille politique et sociale de l'Issagaré. Ah. Voilà. C'est tu vas nous donner un exemple. Mais c'est très d'actualité, tu vois. Ça commence par le défilé de la misère. Ah. On peut croire que bon, ça appartient au 19e, etc. Il y a une histoire que j'ai déjà racontée à ce micro-là. Un jour, je suis venu faire une émission et il y a un jeune homme qui s'est scratché avec sa mobilette. Tu sais, il est un livreur de pizza. Mmh. Et il s'est scratché, il était en mauvais état et heureusement qu'il avait un casque. Et il y a quelques jours, je regardais les informations là. Il se trouve qu'il y a toute une boîte de livreurs en mobilette de pizza ou d'autres choses comme ça, avec des beaux statuts d'auto-entrepreneurs.
Ouais.
Auto-entrepreneurs. Ouais. Et la boîte va fermer. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver sur le pavé. Avec rien. Bon, c'est une catastrophe. Il y a une lutte syndicale, etc. Ils essayent de changer le statut, mais le cynisme de l'affaire, c'est qu'ils vont être réembauchés pour les Jeux Olympiques, je ne sais pas si tu vois, ou comme Paris va avoir besoin d'énormément de nourriture, etc., ils vont travailler 14, 15, 16 heures. Voilà. Et puis après, ils seront relourdés. Et tu te penses que ces visages de la misère qui sont écrits au 19e, etc., sont purement d'actualité.
Mais ce statut d'auto-entrepreneur, c'est une horreur. Hein.
Scandaleux.
Monsieur Triboulet.
Alors,
C'est ça. Patron des rats.
Qu'est-ce que tu veux faire, monsieur
Triboulet ? Patron des rats, non.
Ou si tu veux, vas-y.
Ou ça, ou bien l'autre qui s'appelle les flacons du coiffeur.
Comme tu veux, monsieur Triboulet.
Mais c'est ce que vous voulez.
Voilà. Ils sont d'égal. Les
flacons du coiffeur. Mmh. Bon, d'accord, très bien. Alors, ça s'appelle les flacons du coiffeur. Un de ces derniers soirs, ces messieurs de la police faisaient une rafle sur le boulevard extérieur. On sait comment les opérations de cette nature se pratiquent. Les agents se disposent de manière à envelopper dans un cercle à peu près infranchissable tel coin de rue, tel bout de trottoir où se trouvent réunis un certain nombre de filles. Puis, à un signal, ils se ruent en avant. Alors, c'est épouvantable. Qui n'a pas assisté à des scènes semblables ? Les femmes affolées, fuyant avec des cris aigus, les coups, les injures, les robes déchirées, les malheureuses s'abattant sous le lourd soulier de la police. C'est d'une sauvagerie si révoltante que l'envie vous prend de tomber à votre tour, poing fermé sur les soutiens de l'ordre. Dans la rafle dont je parlais tout à l'heure, une femme qui se sauvait épouvantée buta, tomba et dans sa chute éventra la glace d'un coiffeur, cassa même à l'intérieur 4 flacons. Le coiffeur sort furieux de sa boutique. Les agents, précipités sur leur proie, se mettent en devoir d'emmener l'infortunée blessée, sanglante. On ne passe pas ainsi au travers d'une vitre sans se faire du mal. L'histoire ne dit pas qu'il se soit trouvé là quelqu'un pour protester contre cette brutalité ignoble. Mais le coiffeur l'a trouvée mauvaise. Il a couru après les agents. « Messieurs, eh bien, et ma glace, et mes peaux, qui me les paiera ?» La police a de l'aplomb, c'est connu. « Mais cela ne nous regarde pas, » répondent les agents. « C'est à la femme à payer les dégâts. » Et sur cette simple et digne parole, ils emportent leur proie, laissant le coiffeur en contemplation devant ses peaux cassées. Celui-ci la trouve de plus en plus mauvaise. Et que fait-il alors ? Il m'écrit, me priant de dénoncer cet abus. Il ne demanderait pas mieux, cela ressort de sa lettre, que d'actionner la femme en remboursement de la glace et des flacons brisés. Mais je cite « En attendant, cette femme est arrêtée, je trouve extraordinaire d'être obligé de payer les pots que ces messieurs des mœurs cassent en faisant leurs arrestations. » Commission faite, abus dénoncé. Il est certain que quand les agents s'amusent à envoyer comme projectiles des femmes dans les devantures des boutiques, le moins auquel ils pourraient être astreints serait de solder la casse, soit. Mais on me permettra bien d'ajouter quelques mots. Coiffeur, mon ami, si vous croyez que vos flacons et votre vitre m'intéressent en aucune façon, vous vous fourrez le doigt dans l'œil, et de la belle façon. Encore coiffeur, mon ami. Même que pour dans votre lettre, vous n'ayez pas dit un seul mot de la pauvre femme ainsi brutalisée, il faut que vous soyez joliment égoïste. Oh, vous savez, c'est la maladie à la mode, qu'en face de cette malheureuse pourchassée, haletante, tombée d'épuisement et d'épouvante, vous n'ayez pensé qu'à votre verre fracassé, je le comprends, c'est parfaitement humain. Seulement à votre place, je ne m'en vanterai pas. Et non plus d'avoir parlé aux agents de payer les dégâts, alors qu'ils entraînaient la pauvre fille meurtrie, saignante. Cela rappelle un peu trop une phrase célèbre et a l'air de dire « Payez-moi la casse, je vous passerai la saignée ». Elle saignait, oui. Votre lettre ne dit pas qu'elle se soit blessée, mais comment aurait-elle pu ne pas l'être ? Et je vous assure que sa chair rougie m'impressionne bien plus que vos tessons. Elle est arrêtée, dites-vous. Vous vous en fichez. Elle doit être à Saint-Lazare maintenant, pauvre femme. J'ai assisté une fois à une de ses rafles. C'était sous l'Empire. J'étais tout enfant. La grande personne avec qui j'étais m'eut vite entraîné hors de la bagarre, mais si rapide qu'eût été la vision, et certes alors je n'y ai pas compris grand-chose. J'ai emporté dans mon âme une horreur profonde. Horreur accrue maintenant que je suis un homme, et doublée d'une immense pitié. La lettre du coiffeur, tout étrange qu'elle soit, a de certains points de vue, est bonne et je crois avoir bien fait d'en parler. C'est sous le poids de scandales accumulés, de brutalités dénoncées par les 1000 voix de la presse que M. Andrieux est tombé et que le service des mœurs a été supprimé. Comme M. Kamaskas a succédé à M. Andrieux et M. Massé au service des mœurs, le progrès réalisé est nul. N'importe, il ne faut pas se décourager. On finira peut-être par voir ce qu'il y a d'odieux dans la prostitution organisée, quels effrayants abus naissent de cette organisation. Même et peut-être on se décidera à laisser vaquer librement les filles sur les trottoirs qui leur appartiennent à coup sûr, autant qu'aux financiers véreux, aux bourgeois voleurs, aux escrocs et aux rastaquaires, leurs chalands habituels.
Eh ben voilà, merci. Voilà. Oui, c'est dur. Les textes, ils sont durs. Hein. Ben, c'est Lucien Victor. C'est pas très connu, hein.
Voilà, c'est des articles. C'est d'accord. Des articles, voilà.
Tu les as pêchés où ça ?
Je sais plus.
D'accord. Joli. Non, ce que je veux dire, Ève, je vais revenir parce que c'est moi, j'assume. Je veux dire, et c'est M. Triboulet qui a dit que le mot trucage était assez dur, c'est pas du tout ça. Je veux dire qu'à cause de Claude Brabant, c'est elle la coupable.
Ah.
Je savais bien que tu étais là. À cause de Brabant, j'assimile dans la tension, dans l'idée, ce que vous faites à Hans Bellmer. Tout simplement parce que la première fois où je l'ai vu, ou la deuxième fois où j'ai vu, Hans Bellmer se situait quelques pages après vous.
Juste après.
Voilà, c'est pour ça. Voilà. Mais donc c'est pas... là, je subis l'influence.
Ouais, c'est le miracle d'elle. De ma revue, je ne sais
et
pas.
Et voilà, elle et se voilà. Pâme, elle se pâme.
Géant, c'est pas à cause de Claude Brabant, c'est grâce à Claude
Brabant. Oh là là. Mais je veux dire, avant qu'on écoute un peu de musique, encore une fois, Jeff
et
Sika.
Le hasard objectif.
Et le hasard objectif.
Je veux
surtout
dire,
on
va être en plein dedans, là. Et ça n'a rien à voir et ça a tout à voir. Lorsque Feuillade tourne les vampires, je ne sais pas si vous avez vu ces films au début du siècle, le vampire est censé quand même faire peur, qu'est-ce qu'il va, il va prendre? Il va prendre une très jolie femme, Musidora, pour interpréter le personnage principal. Là encore, il joue la carte de l'esthétique. Mmh. Voilà. Merci Monique. Oh Monique, il ne faut pas rêver comme ça aujourd'hui. Hein. Merci Monique. Merci Monique au 01 43 71 89 40, toujours sur Radio Liberté, toujours dans Onde de Choc, toujours avec la revue Empreinte 42. Et puis on va, toujours avec Lucien Victor Meunier, sympathique comme personnage. Hein.
Très.
Voilà.
Très.
Alors avant d'entendre un nouveau texte par M. Triboulet, notez, parce que il y a Florent Chopin dans ce numéro-là.
Oui.
Florent Chopin est un de ceux que je mets par-dessus pas mal de choses au niveau de ce qu'il fait depuis des années. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose qui passe.
Oui, c'est bien.
Il y a une patte, c'est du Florent Chopin.
Je l'avais exposé à l'usine tout au début. Hein, sa première exposition, c'était à l'usine.
Je l'avais vu.
Oui,
comme
oui.
Quoi, je suis bien allé à l'usine, Eva. Voyez-vous. Voilà. Et voilà. Et donc, il participe aussi à In Toto. Hein. Donc, il y a quand même.
Oui, oui.
Voilà, c'est
oui,
autre
oui,
surprise.
Il est resté très ami
voilà,
avec
voilà,
Tadeo.
Voilà, voilà. Autre surprise. Mais il y a toujours quelque chose chez Chopin.
Oui, oui.
Hein,
oui.
Il y a une et c'est toujours très personnel. Et puis très vivant, très voilà. Mmh. Voilà, je voulais te dire, Monsieur Triboulet, on vous écoute.
Donc le titre de ce texte, c'est Un patron des rats. Un patron et des rats, pardon. Bien des fois déjà, on a dénoncé ce patron. On a dévoilé quelques-unes des turpitudes qui se commettent dans le fief capitaliste, dans l'exploitation duquel ce raffineur a gagné des millions. On lui a demandé compte des amendes infligées par ses contremaîtres. Demandé dans quelle poche passait cet argent extorqué à l'ouvrier misérable et suant sous le joug. Je le rendrai aujourd'hui responsable de la mort d'un homme. D'un des esclaves qu'il tient à la chaîne dans son bagne. Bon ouvrier, exact, probe, gagnant sa vie, mais qui tomba malade. Être malade, droit que les pauvres n'ont pas. Un bourgeois, atteint d'une bronchite, se tient au chaud, ferme sa fenêtre, boit de la tisane.
On va arrêter. Alors, le téléphone sonne.
Oui, c'est mon téléphone que je n'ai pas coupé.
On éteint comme ça. Et puis moi, j'ai
de ma faute. Voilà. C'est mon téléphone que je n'ai pas coupé.
J'ai tout coupé, moi.
Tout coupé, c'est parfait.
Et oui.
C'est parfait. On commencera tout à l'heure. Hein, ouais. On peut tout faire en direct sur Radio Libertaire sans aucun problème.
Voilà. Je suis désolé.
C'est pareil. Mais voilà, tu n'es pas. Tu seras quand même. Comme auto-entrepreneur, tu peux rester.
J'oublie jamais aujourd'hui.
Donc, encore une fois, c'est très bizarre ce numéro parce qu'il ne serait pas gay, parce qu'il y a plein de choses qui sont dures. Ouais. Il y a des textes sociaux qui sont durs. Il y a un texte sur la peste, on va y revenir. Il y a le travail d'Ève, c'est pas théoriquement, etc. Mais en même temps, alors là, c'est très vivant. Même le vôtre de travail est très vivant. Très vivant.
Bien sûr.
Et là, on verra tout à l'heure, tu vas travailler sur l'éloge du pou. On va sauter tout ça. L'éloge du pou. Et c'est pareil, c'est très contemporain. Je sais pas si tu as entendu, il va y avoir un procès, peut-être pas un procès, au moins il y a des plaintes. Il y a un journaliste qui s'appelle Pascal Pro sur CNews.
Oui.
Et il y a une recrudescence de punaises de lit.
Oui.
Aussi bien dans les lits, mais aussi dans les transports en commun.
Dans les cinémas.
Dans les cinémas, partout. Et là, ce monsieur, on sait très bien ce qu'il est politiquement, n'a pas hésité à faire un parallèle avec les émigrés. Avec les émigrés.
C'est trop
Oui. C'est la cause des émigrés, mais en même temps, c'est pas grâce aux émigrés, mais c'est la cause des émigrés, etc. Et si on regardait bien, on n'a pas le temps de le faire, il faudrait le faire, comme ça, c'est exactement le langage que pendant la guerre,
sur les juifs,
c'était les rats, c'était les cafards,
les nuisibles,
c'était les blattes, et même les antisémites qui se voulaient littéraires comme Céline, c'est exactement le langage qui est l'emploi. Et là, c'est très dangereux.
Bah oui,
très très dangereux.
Déjà.
Tout à l'heure.
C'est mal barré.
C'est mal barré. C'est très 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 inquiétant. Et
il saute sur toutes les occasions, quoi.
Oui, bien sûr. Mais ça, c'est. J'ai envie de dire que lorsque des gens comme ça aussi puants le font. Attention à ce que je dis. Hein, c'est normal puisqu'ils sont puants. C'est normal. Mais ce qui est beaucoup plus dingue, c'est que personne ne réagit.
C'est officiel.
C'est officiel. C'est quelqu'un qui passe sur CNews.
Pas possible.
Sur CNews. Alors l'éloge du pou.
Alors l'éloge du pou, c'est un éditeur qui s'appelait Mercier de Compiègne, qui l'a publié au XVIIIe siècle. Il était éditeur au XVIIIe siècle et il publiait un peu des textes originaux, bizarres. Et donc il avait déjà publié l'éloge du paix et l'éloge du sein des femmes.
Génial.
Et là, c'est l'éloge du pou qui restait à publier. Voilà, il s'est fait, je l'ai fait. Voilà.
Tu l'as trouvé aussi, ça? Tu l'as trouvé sur... tu l'as en publication, pas non?
Ah, il n'est pas publié, non.
C'est quoi?
J'ai trouvé Mercier de Compiègne.
D'accord.
J'ai vu que c'était lui qui avait fait l'éloge du pain. Et l'éloge du... ça, c'est republié.
Ah,
et le sein des femmes, c'est republié. Et qu'il y avait un troisième texte qui n'avait pas été republié, c'était celui-là.
D'accord. Comme Lucien Victor Meunier... est un texte très, très politique. Quand j'ai lu cet éloge du pou, ça m'a remémoré deux choses très rapidement, que Lautréamont avait fait un éloge du pou aussi.
Ah oui.
Vous connaissez peut-être, non? Non, voilà. Très rapidement, il dit « Vous ne savez pas, vous autres, pourquoi ils ne dévorent pas les os de votre tête et qu'ils se contentent d'extraire avec leur pompe la quintessence de votre sang. Attendez un instant, je vais vous le dire, c'est parce qu'ils n'en ont pas la force. Soyez certain que si leur mâchoire était conforme à la mesure de leurs vœux infinis, la cervelle, la rétine des yeux, la colonne vertébrale, tout votre corps y passerait. Comme une goutte d'eau sur la tête d'un jeune mendiant des rues. Observez avec un microscope. Un pou qui travaille. Vous m'en donnerez des nouvelles. Malheureusement, ils sont petits, ces brigands de la longue chevelure. Ils ne seraient pas bons pour être conscrits, car ils n'ont pas la taille nécessaire exigée par la loi. Ils appartiennent au monde lilliputien, de ceux de la courte cuisse, et les aveugles n'hésitent pas à les ranger parmi les infiniment petits. Malheur aux cachalots qui se battraient contre un pou. Il serait dévoré en un clin d'œil, malgré sa taille. Il ne resterait pas la queue pour aller annoncer la nouvelle. L'éléphant se laisse caresser, le pou, non.
Non.
Superbe, non? C'est Isidore Ducasse, l'autre amont. C'est grandiose, grandiose. Ouais. Monsieur, vous voulez nous dire quelque chose maintenant sur le pou?
Non, je voulais... Ah oui.
Le pou, allez-y.
Tu enchaînes à où, toi?
J'enchaîne nulle part, je peux commencer.
Il y a Antiquité des Poux.
Oui, Antiquité des Poux, on peut y aller. On fait quelques...
Non, moi je lis l'Éloge des Poux et toi l'Antiquité
oui,
des Poux.
Oui, je fais quelques des Poux, hein? Les Poux. Voilà.
Bon. C'est une chose reconnue de temps immémorial que le préjugé est une maladie terrible dont la force est si grande que quand elle a pris possession d'un être quelconque, elle le tient comme enchaîné, le maîtrise et ne lui permet plus de lever les yeux vers la vérité. Mais ce qui doit surtout exciter notre compassion et nos regrets, c'est que non seulement ce préjugé tient le peuple sous le joug, mais encore il devient le régulateur et l'arbitre des suffrages et des jugements dans les circonstances importantes où il s'agit du salut des mortels et nous conduit presque toujours dans un chemin tout opposé à celui que nous devons suivre. Quel est l'homme, si sot et si lourd qu'il puisse être, qui ne conviendra pas que voilà précisément ce qui se passe à l'égard de celui dont j'entreprends ici la défense, le pou? Cet animal, le plus noble de tous, le plus constant, le plus fidèle commensural de l'homme, dont il a l'honneur d'être engendré. Ce compagnon de ses lares et de ses pénates, ce sage cosmopolite qui s'attache à tous les humains, sans distinction de mœurs et d'opinions religieuses, n'est-il pas injustement méprisé, opprimé par ces mêmes humains pour prix de son attachement? Ne le chasse-t-on pas seulement de la terre et des eaux, mais encore de la seule partie du corps où il a placé sa vie et sa fortune? Ô sort des Aristides, des Coriolans, es-tu fait pour que mon héros qui jamais ne se mêle des affaires politiques? Si quelqu'un cherche la cause de cette atroce persécution, il la trouvera sans doute dans le préjugé. Il importe donc à la gloire et à la conservation de mon client que je le déracine de votre cœur. Pour y réussir, il me suffira de vous développer ses vertus et son utilité. On prétend d'abord que son nom est vil. Quel étrange aveuglement! Ô dieux immortels, quel blasphème! Ceux qui sont versés dans le langage de Virgile et de Varron savent bien que son nom est formé dans cet idiome. Du mot qu'il désigne la partie la plus honnête du corps humain, je veux dire le pied, en employant toutefois le diminutif, comme cela se fait ordinairement quand on veut louer ce que l'on aime. Certes, ce nom n'a rien de plus déshonnête en soi que ceux d'Ophélie et de Polype. Admirez donc la terrible influence du préjugé. Je ne parle pas de la queue de fruits et de fleurs, que l'on appelle aussi de son nom en latin, mais est-on désagréablement affecté quand on parle des montagnes de la Pouille, des champs fertiles et des fleuves de la Pouille? Est-ce par mépris que nous disons la champagne pouilleuse? Les Romains cherchaient à donner à tous des noms illustres. Les Grecs ont donné à mon client le nom qui désigne sa noble origine, c'est-à-dire celui de la cervelle, ce laboratoire de la raison humaine. Et certes, il n'a jamais pensé à se choisir lui-même un nom, car il eût pris également tout autre qui aurait été propre à la barbe et aux sourcils des stoïciens, où il fut jadis sa demeure. La plus grande partie des philosophes et des grands orateurs s'enorgueillit de la contrée qui leur a donné le jour. et en prend le nom, comme Platon en a donné un exemple. Mon client plus modeste ne se vantera pas d'être né à Rome ou à Athènes, dans ces cités pompeuses dont on nous fait les panégyriques jusqu'à la satiété. La patrie de mon client, c'est l'homme, et l'on sent que ce serait une folie que de vouloir ici faire l'éloge de ce dernier. On ne niera point qu'il est seul doué de raison, et que cette raison dont il fait tant parade ait pris la tête pour sa demeure, comme la partie la plus élevée et la plus noble de l'édifice, qu'elle a choisie pour y être logée comme dans une forteresse respectable. C'est donc là que mon client a fixé ses pénates, sa fortune et ses habitudes. Il en est le citoyen, le choix qu'il a fait de ce domicile prouve évidemment sa sagesse et son bon goût. Un poète ancien a dit avec beaucoup de sens qu'il n'y a rien de meilleur qu'un bon voisin. Mon client a trop d'esprit pour ne pas le savoir. Aussi l'a-t-il prouvé en s'établissant dans le voisinage de l'imagination, du bon sens, de la prudence, de l'esprit et de la mémoire. Il s'est donné bien de garde de s'approcher du cœur. Ce dernier nous faisant faire tous les jours trop de folie. Non, c'est la tête seule qui lui convient. Aussi l'âne, qui est privé de tous les avantages que je viens d'énumérer, n'a-t-il pas l'honneur de compter les poux parmi ses locataires? Les plus sages mortels ont placé après l'homme le chien et le rossignol parmi les êtres qui possèdent le plus d'instinct et de raison. Ce qui vient à l'appui d'un axiome d'Homère et d'Aristote qui dit que les semblables se cherchent et sympathisent. Platon est le seul dans l'Antiquité à qui l'on ait décerné la glorieuse épithète de divin. Observez bien ceci, tout ce qui touche cet homme divin doit participer à sa gloire. Donc les poux qu'il avait doivent nécessairement être compris dans l'apothéose. Il n'y a point de milieu. Je ne parlerai pas des philosophes. Alcmanès et Phérécides, qu'ils ont aussi fidèlement accompagné jusqu'à la mort.
Eh oui, c'est l'éloge du pou. Merci de Compiègne. Je ne vais pas lire le texte qui va suivre parce que c'est beaucoup trop long et je voudrais qu'on fasse un petit point sur la fameuse peste à Marseille. Mais regardez, Antiquité du pou, là. La République des poux, semblable à celle des Israélites. Voilà. C'est terrible parce qu'on revient dans ce côté du bouc émissaire.
Et là, on existe déjà au 18e siècle.
On est en 1763, quoi.
C'est déjà là.
Bon, on va faire un peu de musique, on reprend notre souffle et puis on va regarder. La peste à Marseille, terrible chose. Mm. Hein, avec très, très belle gravure, d'ailleurs. Tu l'as eu où, cette gravure?
Je l'ai trouvée au Puce de Vanves.
D'accord. Mais c'est la peste à Marseille ou pas?
Oui, c'est la peste à Marseille en 1720.
D'accord, mais c'est estampillé peste à Marseille ou pas?
Ah ben, c'est marqué sous la gravure.
D'accord.
Il y a le titre.
Bon, merci Monique.
Thank you.
silence religieux sur Radio Libertaire au 01 43 71 89 40. Et on va parler, oui, de la, c'est la grande peste de 1720, relation historique de la peste de Marseille. Juste, il y a une gravure. Il y a une gravure, et je disais hors antenne, elle est très harmonieuse. Là, on voit des corps qui sont enchevêtrés, comme disait Claude, on descend les corps par la fenêtre, c'est ça?
Oui, au bout d'une corde.
Voilà, elle est en noir et blanc.
Il y a plein de petites tentes, comme pour le Covid.
Oui, on va en parler.
J'ai les petites tentes extérieures.
Voilà, oui, oui, il y a un côté, il y a un petit... Oui, c'est ça, il y a des... Comment on appelle ça, ces tentes
Je ne sais pas, les tentes que les pharmaciens mettaient pour les
tests. Des barnums.
Ah, oui, voilà, c'est ça.
Voilà. Des barnums. Ève, c'est pas drôle, mais c'est très harmonieux.
Ah ben oui, c'est bien organisé. L'espace est très très organisé, je dirais. Donc du coup, ça crée une dynamique et une force.
Mais on va revenir à la fin. Mmh. Et dans Memento Mori, c'est très harmonieux aussi. Vous cherchez une harmonie, vous la cherchez, l'harmonie.
Quelque part, certainement, il y a quelque chose de choisi, c'est-à-dire que il y a le hors cadre, le hors champ, et il y a le champ. Et dans le champ, tout ce qui existe, c'est ce que j'ai envie d'y mettre. Rien ne doit m'échapper. Ce champ, il m'appartient. Donc je joue avec.
Là. C'est une double page. Il y a un banc, il y a un squelette. Il y a une dame qui a une structure physique très christique.
Absolument.
Très christique. Et derrière, en arrière-fond, ça va pas vous plaire du tout ce que je vais vous dire. Il y a une jolie dame.
Oui.
Il y a une jolie dame, toute harmonieuse.
Si vous voulez, mais cela dit, elle est évanescente.
Elle est évanescente.
Et un peu maigre.
Elle est très maigre.
Celle du milieu? Ah non, pas du tout. Elle est jolie. Ah oui, mais elle n'est pas maigre. Commencez pas à m'escroquer.
Si tu les aimes comme ça,
je veux dire que cette théâtralité est très travaillée, très harmonieuse. Rien ne se casse la gueule là-dedans.
Ah non.
Non, en fait, ce sont des dialogues. En fait, j'aime l'idée qu'il y ait une histoire dans mon champ. Et cette histoire, elle peut raconter plein d'histoires. Parce que si elle raconte plein d'histoires, c'est encore plus riche, plus nourrissant. Et c'est ça que je cherche. En fait, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est me dire « tu m'as nourri ».
Jamais je vous dirais ça.
Le mot nourrissant est très bien choisi.
Donc, relation historique de la peste de Marseille en 1720 par Monsieur Bertrand, docteur en médecine du collège de l'académie de Marseille.
Hein? Ouais.
Donc, ce qui est très, on a traversé une pandémie. Ça a été gonflé par les médias. Je crois qu'on peut le dire. Hein, ça a été gonflé par les médias. Lorsqu'on regarde, comme tu présentes, tu vas en parler un peu, Claude. On lit, il y a eu 40 000 morts. Et la population de Marseille, c'était 80 000 habitants.
Voilà.
C'est-à-dire que la moitié
un Marseillais sur deux.
Voilà. Ouais. Alors, oui, c'est très... Qu'est-ce qui t'a pris de mettre ça dans ta revue, là? C'est pour accentuer le côté un peu morbide ou...
Non, moi, je fonctionne beaucoup avec le hasard. Je dis toujours que le rédacteur en chef de ma revue, c'est le hasard, c'est pas moi. D'accord? Donc, moi, je vais à Vanves, je tombe sur une gravure de la peste. Alors, évidemment, je tombe sur une gravure de la peste, je pense au Covid aussi, et donc ça m'intéresse, et voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, étant tombé sur la gravure, je me dis, ça, c'est un sujet, et je vais chercher sur Internet s'il y a des textes sur la peste de l'époque. Voilà. Et j'en trouve un qui me semble pas mal. Et je mets les deux ensemble. Voilà. C'est tout. Mais c'est le hasard, au départ, qui est le déclencheur.
Tu m'as dit hors antenne tout à l'heure, il y a un problème de profil là-dedans.
Ah oui, c'est un conflit d'intérêt.
Oui, j'appelle ça profil. Alors, tu peux expliquer un peu?
C'est un conflit d'intérêt parce que les navires qui arrivaient à Marseille, c'était le port de l'Orient. Donc, en Orient, en Syrie, tout ça, il y avait la peste pas mal. Et donc, il y avait un système de quarantaine à Marseille pour que les bateaux qui viennent de ces régions-là n'amènent pas la maladie. Et donc, on les laissait en quarantaine, à la fois les marins qui étaient sur le bateau et à la fois les marchandises. Bon. Et pour s'occuper de cette quarantaine, il y avait tout un système de santé avec des lieux où les gens restaient pendant 40 jours. Donc c'était un gros truc de santé qu'il fallait surveiller. Et les gens qui surveillaient ce système de santé, cette quarantaine, ils étaient choisis parmi les gros marchands de Marseille, les gros bonnets, si tu veux. Et c'était donc des marchands. Donc, en fait, c'est eux qui faisaient la quarantaine et c'est leurs marchandises qui arrivaient. Merci. Donc, évidemment, il y a un moment où il y a eu un conflit d'intérêts. Ils ont envie que leurs marchandises arrivent avant les 40 jours prescrits. Et donc, ils les ont laissés passer.
Il y a une négation de la maladie à un moment donné.
Et alors après, bien sûr, après une fois qu'ils les ont laissés passer, pour que les responsabilités ne soient pas trouvées, ils ont trouvé des médecins qui disaient que c'était pas la peste. Ils ont nié que c'était la peste. Enfin, ça a duré un certain temps, jusqu'au moment où ils ont plus pu dire que c'était pas la peste, parce qu'il y avait tellement de morts que c'était... Voilà, c'était évident.
Trois autres matelots tombent encore malades. N'ayant plus de chirurgien, le capitaine relâche à Livourne, où les matelots meurent de la même manière que les autres. Ce capitaine rapporte un certificat du médecin et du chirurgien de cette ville, par lequel il déclare que ces malades sont morts d'une fièvre maligne, pestilentielle. Voilà.
Hein, c'est ni la faute du capitaine, ni la faute des certificats. Ils ont tout eu entre les mains. Mais ils ont choisi de faire venir leurs marchandises plus tôt. Voilà.
Puisque le temps tourne,
tout se reproduit en fait.
À chaque fois, le fric, c'est le conflit d'intérêt, voilà. Comme aujourd'hui, voilà. Exactement pareil.
Il y a pas.
Oui, oui. Ben, c'est pour ça. Tout à l'heure, je trouvais que ce numéro était très d'actualité. On peut penser que c'est de la littérature, c'est passé, etc. Mais c'est très d'actualité qu'on passe des punaises au pou, qu'on passe de la misère au départ et du pauvre mess qui se scratche pour un salaire de misère. Hein. Faut pas croire. On est en plein
dedans. On passe de la peste au Covid.
Voilà. Oui, on est en plein dedans. Mais puisque le hasard objectif, chère mademoiselle, fait bien les choses et qu'effectivement, il y a Roger Mathieu, c'est à la fin de l'ouvrage. C'est page 41, vous l'avez ? Regardez bien. Voilà, voilà. Alors, j'ai lu ça, j'ai trouvé ça très fin.
Oui, c'est pas mal.
C'est
hein.
Très fin, c'est...
J'ai pas tout mis du lexique. Hein. J'en ai mis, les deux tiers, dirons-nous. Hein. Voilà.
Et je rappelle que Roger Mathieu, c'est le monsieur qui, aux éditions Douros, a préfacé le Hans Bellmer, qui vient de sortir.
Et...
Oui, c'est bien, c'est bien. Non, c'est très bien.
Il est très sympathique, lui.
Très sympathique, là. Vous savez, Ève, il y a deux parties dans le texte, lexique succinct des routes, Roger Mathieu. Il y a, sur la partie gauche, il y a des mots. Il y a des mots en gras. Il y a des mots en gras et parfois, il y a une définition juste en face. Et elles font parfois trois mots ou quatre mots. Vous ne pouvez pas aller de page 43, j'avais bien que j'allais vous faire lire à un moment donné. Regardez, il y a pas, péage et piste. Vous allez vous D'accord. en tirer. Pas.
Pas. Semence de semelle, écriture du pied. Le labyrinthe a perdu mes pas. Terre froide, mes semelles meurent d'angoisse. À part ses pas, étourdis, conduisant ma quête, je n'ai rien retenu. Péage. Quête pour l'entretien du culte des autoroutes. Piste. Traces multiples et poils de museau ensevelis sous un tapis de feuilles mortes.
Moi, je vais en lire un.
Vas-y.
Raccourci. Combine.
J'étais sûre.
Voilà, j'aurais dû vous le donner. Celui-là, j'aurais dû vous le donner. Ça, c'est magnifique. Hein. Voilà. Non, c'est très fin, hein, c'est un livre, c'est quoi ?
Non, c'est un texte qui m'a amené quand j'étais au marché de la poésie, je ne connaissais pas Roger Mathieu. Voilà, il m'a amené plusieurs textes, des poésies, enfin des poèmes, et puis ce texte-là, voilà.
Ève, j'en ai un pour vous, c'est page 42, vous allez, c'est le troisième. Le troisième, page 42.
Ah, vous êtes gentil.
Je vous en prie, travaillez.
Là. Bon, il est farceur. Hein. Donc c'est embouteillage, constipation. C'est et ça l'amuse.
C'est beau, non ?
C'est magnifique.
Moi, j'en ai un pas mal, là.
C'est magnifique.
Coin de rue, café du coin. Ah, là c'est aussi, bien. Ça, c'est charmant. C'est bien.
Alors, Pardonnez-moi, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis mauvais. Je vous l'avais dit. Sur Radio Libertaire, 89.4 au 01 43 71 89. Monsieur Triboulet, on va pas tarder à se quitter. Oui. On va reprendre le texte de Lucien Victor Meunier. Tout à l'heure.
Interrompu par ton téléphone.
Interrompu par le téléphone. Et puis après, on récapitulera tout ça.
C'est pas mon jour. Hein.
Un patron et des rats. C'est page 3.
Ah voilà. C'est pas mon jour. Hein. Donc je lis ce texte.
Si tu veux, oui, on peut le faire à deux si tu en as marre.
Je vais commencer. Bien des fois, déjà, on a dénoncé ce patron. On a dévoilé quelques-unes des turpitudes qui se commettent dans le fief capitaliste, dans l'exploitation duquel ce raffineur a gagné des millions. On lui a demandé compte des amendes infligées par ses contremaîtres, demandé dans quelle poche passait cet argent extorqué à l'ouvrier misérable et suant sous le joug. Je le rendrai aujourd'hui responsable de la mort d'un homme, d'un des esclaves qu'il tient à la chaîne dans son bagne. Bon ouvrier, exact, probe, gagnant sa vie, mais qui tombe à malade. Être malade, droit que les pauvres n'ont pas. Un bourgeois atteint d'une bronchite se tient au chaud, ferme sa fenêtre, boit de la tisane. Une bronchite pour un prolétaire, c'est quelquefois la mort. Il dut interrompre quelques jours son travail. Quand il revint à peu près guéri, les portes de la raffinerie se fermèrent devant lui. Ce n'est pas le patron dont il s'agit qui vient en aide à ses travailleurs malades. Il existe bien chez lui, paraît-il, une caisse de secours alimentée par les retenues faites aux ouvriers sur leur misérable paix. Mais ce n'est pas, dit-on, aux ouvriers qu'elle profite, à qui donc ? L'homme se trouva sur le pavé, plus de travail, plus de pain. On l'expulsa du garni qu'il occupait, à la belle étoile alors, soit, vagabond. Vagabond, ce travailleur, dont le labeur incessant avait durci les mains. La maladie le minait, une bronchite pas soignée. Vous savez ce que cela peut devenir ? Il toussait, un râle sifflait au fond de sa poitrine creuse. La phtisie l'empoignait, main de fer qui ne lâche plus, vagabond. Et dire qu'il n'eut pas la chance d'être ramassé, peut-être les sergots, cela s'est vu, lui auraient donné une écuelle de soupe sur le coin de la table du poste, mais non. À quoi diable sert la police ? Il errait à travers l'immense Paris, indifférent, mangeant par raccroc de temps en temps, couchant ici et là, se glissant par une fente des palissades dans quelques chantiers déserts, s'abritant quand il pleuvait sous l'étroit retrait d'une porte, la faim au ventre, traînant comme un lourd fardeau son existence, sans espoir, rongé, courbé de plus en plus chaque jour vers la tombe par l'inexorable maladie et laissant à chaque coin de borne où la fatigue l'abattait comme un lambeau de sa vie émietté.
Il y a des gens charitables. En dernier lieu, cet infortuné avait trouvé asile chez une marchande de vin rue du Maroc. Ce n'était pas un palais, certes, qu'on lui offrait, mais cela valait toujours mieux que la rue. Quelques brassées de copeaux poussées du pied dans la cave lui faisaient un lit. C'est là que le soir, au retour de ses infructueuses courses au travail, il s'endormait bercé par le roulement des voitures au-dessus de sa tête, voyant de ses yeux à demi-clos comme une étoile le reflet tremblotant d'un bec de gaz aperçu par le soupirail. Enfin, il trouvait là le sommeil, ce grand distributeur d'oubli. L'autre matin, son hôtesse ne le vit pas reparaître. Elle descendit, il était à jamais à l'abri de son patron et des autres. La mort, miséricordieuse, l'avait arraché aux souffrances. Mais en vérité, ce dut être un bien horrible spectacle.
N'était-il déjà plus lorsque les rongeurs voraces qui peuplent les ombres souterraines s'étaient attirés par l'odeur de la chair, approchés, grouillant de lui ? Ou bien avait-il, respirant encore, senti sur sa face la morsure des rats affamés ? Qui pourrait dire le mystère de cette sinistre agonie ? Peut-être le malheureux affaibli a-t-il essayé de lutter contre les dévorants ? A-t-il lamentablement appelé à son aide ? Mais les murs épais de la cave ont étouffé ses appels désespérés. Il est retombé sans force. Un de ses yeux, une main, son nez, avait été mangé. On l'a porté à la morgue dans cet état. Qu'on l'enterre vite. N'est-ce pas, bon bourgeois ? De telles choses sont atroces et votre sensibilité réclame des ménagements. Il a une sœur, dit-on en province. On la recherche actuellement. Je me demande en quels termes on va lui apprendre la mort de son frère. Ah, que voulez-vous, lui dira-t-on sans doute, il est mort, c'est un malheur qu'il faire. Trop de force était contre lui, il devait succomber. La faim, le froid, la maladie se sont mis ensemble pour l'assassiner. Il y a eu bien des complices, allez. Et si vous voulez des détails, c'est le patron qui a commencé l'œuvre criminelle. Ce sont les rats qui se sont chargés de l'achever.
Ah, c'est magnifique.
C'est
hein.
beau. Hein.
Ah, très, très, très beau. Hein, c'est beau. Donc, Lucien Victor Meunier, c'est les clameurs du pavé. Texte aussi, on n'a pas le temps de le faire parce qu'on va arrêter là. Texte violemment anticléricaux.
Ah oui.
Il est anticlérical violemment. Hein.
Oui, oui, oui.
Et tout petit, il assiste à la commune. Il fait un spectacle, il écrit tout un texte sur la semaine sanglante. C'est le dernier qui est très difficile.
Oui, oui. Hein.
Donc, c'est Empreinte 42. Est-ce que tu seras, est-ce que tu seras au Salon de la Revue ?
Alors, je serai au Salon de la Revue. D'ailleurs, j'ai oublié d'apporter le carton. Je serai au Salon de la Revue le deuxième week-end d'octobre, c'est-à-dire, je crois, le 13 et le 14.
Voilà. D'accord.
Où c'est au Blanc Manteau.
Voilà. Blanc Manteau, où peut-on trouver la revue, là, actuellement ?
La revue, il y a quelques librairies qui l'ont. Il y a Armel Louis, la lucarne des écrivains, rue de Lourcq, 115 rue de Lourcq. Il y a l'Halle Saint-Pierre. Il y a Publico, évidemment. Il y a à Ménilmontant aussi, oui. la librairie Le Montant l'air, qui est en face de l'église de Ménilmontant. Voilà.
Voilà. Puisque j'en suis là, je vous rappelle Hans Bellmer, c'est un livre incontournable, il est magnifique aux éditions Douros. Hein. Ça, faut absolument se lever. Et je vous rappelle aussi que lundi 9, on verra ce qu'il en est encore du surréalisme, hein, s'il est tonifiant, s'il est encore là. On verra avec on fera un historique sûrement du désir libertaire et on parlera de In Toto numéro 5 avec Mona Huerta ou Abdelkader El-Jadabi. Et on aura la visite de Jimmy Gladiator en chair et en Dos, sans aucun problème. Bien sûr qu'il sera là, sans aucun problème. Sur Radio Libertaire. Merci Monique. Faut dire merci à Monique. Et voilà, tout le monde salue Monique. Oui.
Je voulais juste...
Heureusement.
Excusez-moi, je voulais juste ajouter quelque chose.
Vous en prie.
J'ai un texte qui est paru dans une revue littéraire qui s'appelle Les Moments littéraires au mois de juin, sur la mort, à chacun ses petits arrangements. Ah non, mes petits arrangements avec la mort, pardon.
D'accord.
C'est le titre. Et c'est une revue littéraire qui est axée uniquement sur des textes autobiographiques.
D'accord.
Voilà, je voulais juste préciser ça.
D'accord, on le dira.
Ben voilà.
Si on peut le trouver, nous le lirons. Merci, Monique.
Soit d'ici ou de n'importe quel parage, moi j'aime bien les gens qui sont de quelque part et portent dans leur cœur une ville ou un village où ils pourraient trouver leur chemin dans le noir. Voilà pourquoi Jean de Bordeaux, France bas de Nantes, voilà pourquoi Laurent, le gars du Canigou, Pierre le Normand, et toi Joël de la Charente, j'aime tant vous entendre parler de chez vous. Le dernier verre se vide dans les bars d'Adélaïde. On a le cœur qui se vide aussi lorsque l'on pense au Chaque 1er janvier, on dit, c'est la dernière année que je passe en Australie. Et le 1er janvier suivant, nous voir faire même serment qui sombre à son tour dans l'oubli. Ce serait pourtant le moment de revoir nos plages, car les pays se ressemblent de plus en plus, et dans 10 ans, trouverons dans nos villages des distributeurs de hot dogs au coin des rues. Le whisky paraît acide dans les bars d'Adélaïde lorsque l'on garde au palais le souvenir du Beaujolais. Et dans 20 ans, sans avoir revu nos falaises, citoyens d'Australie, conscients de leur devoir, à nos enfants, nous apprendrons la langue française, mais leur accent ne sera pas celui du terroir. Alors dis-moi, de nos 20 ans, François de Nantes, de nos 20 ans, Laurent, le gars du Canigou, Pierre le Normand, et toi, Joël de la Charente, nos 20 ans d'aujourd'hui, vous en souviendrez-vous? Quand le dernier verre se vide dans les bars d'Adélaïde, on a le cœur qui se vide aussi lorsque l'on pense au pays.
Longtemps amarré mon beau bateau d'ado, dans tes rues alignées sous la gueule de Rimbaud, les galets sur les murs du vieux lycée Bazin manquaient un peu d'azur, la mer était si loin. Aux plages de tes pavés je dessinais mon île, mes hières nous regardaient nous aimer. Charleville, dans ce pays d'Ardennes, tout près de la frontière, tu faisais ta parisienne qui aurait aimé la pierre. Place du Cal te donnait des faux airs de bourgeoise, ouvrière tu savais la couleur de l'ardoise. Odeur de confiture et de salade au lard, et les voyelles d'Arthur taillées pour la bagarre. Charleville. Les copains déjantés de la rue Hippolytaine inventaient des étés tous les jours de la semaine. Et au fond de cette cour d'où montait la musique, s'écrivaient pour toujours nos jeunesses électriques. De l'ivresse de nos nuits aux amours va-nu-pieds, décédées poésies que déjà je chantais. Les bières du Carolo faisaient tanguer les trottoirs. De la mousse à nos crocs, à nos mains des guitares. Ça gueulait des slogans de bonheur libertaire, de la vie plein nos printemps, à ne savoir qu'en faire. Et pendant que ça dansait dans nos têtes à l'envers, à chaud la Meuse pleurait sa centrale nucléaire. Charleville. De ces douces cohues, tous ces coms effacés, que sont-ils devenus, mes frérots d'amitié? Même Gonzague a quitté sa place et ses arcades, et plus personne ne sait nos belles rigolades. Rue Bourbon et le blues, les lumières des vitrines, au Mont-Olympe, les pelouses chantent encore Billie Jean. Le vieux moulin s'amuse de la roue qui a tourné, de ses larmes à ma muse, de ma tête en musée. Le No Man's Land d'Igelin, Lou Reed ou Otuna, et je revois les copains, je retourne là-bas. Charleville à jamais, tes rues s'attachent à moi. C'est là que j'ai aimé pour la toute première fois.
Quitter la vie en trottinant d'un paravis, cœur léger et sans un radis, sur les chemins du paradis. N'imaginez pas qu'on se réjouisse à l'idée de ces vers qui glissent et se nourrissent de nos histoires dans les replis de nos mémoires. Ces hordes d'asticots qui grouillent, nous aussi ça nous fout la trouille. Priez pour nous pauvres athées, priez pour nous les pas gâtés. On a les foi, mais pas la foi. Pareil qu'on a pas d'âme. Sans autre forme de procès, Dieu nous interdit l'accès aux voluptés de l'espérance en d'éternelles vacances. Il a réservé ses dimanches à ceux qui montrent patte blanche. Se foutant du quart comme du tiers, il a dessiné la frontière. D'un côté, tous les bienheureux, promis au royaume des cieux. De l'autre, allez savoir pourquoi, toute une armée de types comme moi. Priez pour nous pauvres athées,
et pour nous les pas gâtés, c'est Dieu qui nous tourne le dos, qui nous fait pas de cadeaux, qui dit qu'on a pas d'âme. Si c'est ainsi qu'est vraiment Dieu, un petit fonctionnaire besogneux, un boutiquier fade et mesquin, qui dit que pour garder son pain, il faut savoir donner les miettes, tomber à côté de l'assiette. Si l'Éternel est à ce point, si misérablement humain, s'il est à notre piètre image, jusque dans l'idée du partage, y a vraiment rien à en tirer. Je suis athée, je suis atterré. Eh ben, si Dieu croit pas en nous, on s'en fout pas mal, mon amour. Je brûle des cierges à tout essaim, bras en croix dans un lit moelleux. Nous deux, on est très pieux. Je ne me fie qu'à tes instincts, et quand tu dis que tu crois en moi, c'est le désir qui croit en moi. Je suis à tes pieds, et je n'ai Dieu que pour tes yeux. Ce qui est pris n'est plus à prendre, et notre avenir ne peut attendre. Nous les athées, nous les sans-ciel, on n'espère plus le bonheur factice de leurs cieux d'artifice. Nous, on ne croit qu'à l'essentiel, et pour honorer notre foi, on étanche notre soif. On s'abreuve du vin d'ici plutôt que de l'eau de là.
Autorisée sur la plage japonaise de Yotsukura, non loin de Fukushima, mais à condition d'indiquer au public non la température ou la force du vent, mais le niveau de radioactivité de la mer. Mercredi dernier, le gouvernement japonais a annoncé le déversement de plus de 300 tonnes d'eau contaminée chaque jour dans l'océan Pacifique, près de la centrale nucléaire de Fukushima.
Soyez rassurés et passez une bonne journée.
Votre attention s'il vous plaît, ici la patrouille de la plage. À tous les vacanciers, voici notre message. Ne soyez pas inquiets, le pavillon est vert. Oui, vous pouvez vous baigner à Fukushima sur mer. À Fukushima sur mer. Contre l'eau qui ruisselle, des experts formidables bâtissent une citadelle avec des sacs de sable. Y a même un petit muret autour des réservoirs, et pour l'éternité, des citernes provisoires. Vous êtes mal informés, faut pas croire ce qu'on vous dit. Y a jamais eu de fumée, juste un peu d'eau bouillie. En même temps qu'on imbibe, on pompe jour et nuit. C'est nous les Danaïdes de la technologie. Votre attention s'il vous plaît, ici la patrouille de la plage. À tous les vacanciers, voici notre message. ne soyez pas inquiet, le pavillon est vert. Oui, vous pouvez vous baigner à Fukushima sur mer. À Fukushima sur mer. Un petit coup de balai sur chaque particule, et la terre enterrée fait des petits monticules. Les fluides radioactifs au fond des fonds marins deviennent inoffensifs dans les courants lointains. Tout au long du rivage, voilà c'est résolu, on stoppe les nuages et l'eau ne coule plus. Oui, devant vous ici nous en sommes garants, plus jamais l'eau de pluie n'atteindra l'océan. Votre attention s'il vous plaît, ici la patrouille de la plage. À tous les vacanciers, voici notre message. Ne soyez pas inquiets, le pavillon est vert. Oui, vous pouvez vous baigner à Fukushima sur mer. À Fukushima sur mer. Le sol de la centrale est cryogénisé. Une navette spatiale va venir la chercher. Aucun météorite ne peut l'endommager, car son champ magnétique fait comme un bouclier. Si tout ça ne suffit pas à dépolluer la mer, c'est promis, on fera Superman à l'envers. Dans des millions d'années, si vous êtes patient, dans des millions d'années, tout sera comme avant.
Soyez rassurés et passez une bonne journée.
Nous ne savons pas exactement quelle est la situation. Quelle quantité d'eau a fui?
Bon, c'est certes pas anodin, mais c'est quand même pas gigantesque. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'une fois que cette eau, en imaginant qu'elle soit répandue dans la mer, ça devient complètement anodin, puisque la mer, c'est un réservoir d'eau absolument gigantesque, et la radioactivité se dilue là-dedans rapidement.
Quel est le niveau de radioactivité et où elle s'est déversée?
Dans l'océan, dans les océans, il y a 3 mg d'uranium par mètre cube. Si vous faites le calcul, vous allez voir que ça fait 5 milliards de tonnes d'uranium dispersées dans les mers. Donc la mer, vous voyez, spontanément, naturellement, est radioactive. Donc si on en rajoute un petit peu, c'est évidemment, c'est pas très agréable, mais c'est pas des quantités considérables.
Tu n'as que 12 ans, 12 ans. Tu la manges, tu la respires, mais jamais ne la vois. La radioactivité de ton jeune corps, tous les jours croît. Voici les coupables, on les montre du doigt. Mais sur ton avenir, t'as déjà fait une croix. Jamais mes amis et moi, on ne pardonnera. Jamais celui qui a les yeux ouverts n'oubliera. Pour des siècles, ils ont répandu leur poison chez toi. Comme des criminels de guerre, on les jugera. À toi la petite écolière de Fukushima. Ceux qui ont détruit ta terre s'appellent TEPCO et Areva. Petite écolière de Fukushima. Tu n'as que 12 ans, 12 ans, mais déjà le mal est en toi. Petite écolière de Fukushima. Ceux qui ont détruit tes rêves s'appellent TEPCO et Areva. Petite écolière de Fukushima. Tu n'as que 12 ans, 12 ans. On ne demande rien de plus que n'importe quel gamin. Aller à l'école et jouer avec ses copains. Dans la terre, dans les bois, dans la rivière et les chemins. Embrasser ses parents, goûter avec un bout de pain. Ils ont réveillé le dragon juste pour l'appât du gain. Les savants fous et la mafia, tous à main dans la main. On sait pourtant bien que sans conscience la science n'est rien. Que l'énergie nucléaire apporte la peur et le chagrin, comme de gros nuages noirs, comme une histoire sans fin. Tu vis dans un cauchemar sans réveil, sans matin. Et personne ne viendra, personne ne te sauvera. Pour toujours on oubliera la princesse qui était en toi. Et tu n'attends plus rien, ni des médias, ni de l'État. Tu es seul et tu vas mourir ici comme une paria. À toi la petite écolière de Fukushima. Ceux qui ont détruit ta terre s'appellent TEPCO et Areva. Petite écolière de Fukushima. Tu n'as que 12 ans, 12 ans, mais déjà le mal est en toi. Petite écolière de Fukushima. Ceux qui ont détruit tes rêves s'appellent TEPCO et Areva. Petite écolière de Fukushima. Je préférerais oublier, mais je pense à toi.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour à toutes et à tous, donc Nicolas au micro de Trou Noir avec en compagnie de Serge.
Bonjour.
Et de Patrick.
Bonjour.
Et de, bien sûr, de Monique à la technique que vous avez entendu il y a un instant. L'émission du jour va être consacrée au RIA 2023. Kézako, RIA.
Oui, RIA. C'est Kézako. Rencontre internationale. Alors, le A, il y a plusieurs interprétations.
Alors voilà, cette année.
C'est l'amour.
Alors, Patrick aurait bien aimé que ce soit les rencontres internationales de l'amour. Mais peut-être dans 10 ans, Patrick, peut-être que tu
as serais trop vieux.
Ah, Patrick n'est jamais trop vieux pour l'amour.
C'est plutôt de la haine, mais il y en a en trop.
Mais donc, nous connaissions, tous les quatre autant que nous sommes, nous connaissions les rencontres internationales anarchistes. Mm-hmm. C'était à Saint-Imier, dans ce beau vallon du Jura suisse, en 2012. Et puis cette année, en 2023, il y avait les rencontres internationales anti-autoritaires.
Donc c'est RIAA, en fait.
RIAA. Alors, mon mauvais esprit...